Bah, c'était Odezen. Merci Vincent pour cette découverte.
De rien, voilà, un petit son très rythmé qui bouge. C'est un petit peu sombre, mais je trouve qu'ils ont un truc dans le hip-hop avec, des belles références et un langage pas châtié, mais on sent qu'il y a des mots qui sont très peu utilisés dans l'hip-hop d'aujourd'hui. Et je trouve ça intéressant que ça... Mmh. Ça se mélange et que ça fasse partie du paysage, simplement.
Ça contraste pas mal avec le titre, en fait. Tu t'attends un peu à un truc vraiment,
Vraiment vulgaire,
crade et vulgaire. Et en fait, le texte, était plutôt sympa, plutôt intéressant. Et...
Ouais, mais après, c'est vraiment de l'ego trip.
Enfin, bien tourné, oui, c'est ça. Oui,
bah. Faut partir du principe que le but, c'est quand même de dire qu'on est le meilleur. Mais sinon, ouais. Je trouve qu'ils écrivent bien et... voilà, n'hésitez pas à les écouter.
C'est là où la discipline du rap est intéressante, parce que c'est des milliards de façons de te dire que je suis le meilleur, en fait. Et c'est là où la langue est vivante, et on a la chance d'avoir une langue qui nous permet de dire la même chose avec des milliers de mots. Et même si l'ego trip, c'est quelque chose qui a été très présent dans le rap à un moment donné, bah, il peut toujours y avoir de la nouveauté, une façon de tourner la phrase, une façon de la dire, un tel mot utilisé plutôt qu'un autre.
Tu penses que tous les rappeurs sont des gorilles à dos argentés?
Sont des gorilles, je sais pas, franchement, le dos des rappeurs, frère. Ouais. Mais pour le coup, à la fin de l'émission, moi j'aurais à répondre à ce morceau-là, à te répondre avec un autre morceau.
Droit de réponse.
Qui utilise ce procédé.
Hakim l'a pris comme un clash, j'ai l'impression.
Inversé. Non, je l'ai pas pris comme un clash, j'ai pris comme. On se fait écouter les bonnes références.
On se complète.
Ah, c'est bien, c'est plutôt positif de le voir comme ça. Bah, puisque tu as le micro, Hakim, tout du moins la parole, on va te la laisser.
D'accord. Je vais vite vous la redonner.
Bah, super. C'est bien ça.
Alors,
c'est pratique.
Moi, j'avais envie de parler de cinéma, en fait.
Cinéma.
Je ne savais pas vraiment sous quelle forme parce que.
Cinéma.
Il y a des fans de Benoît Boulevard apparemment. J'en vois un, j'en vois deux.
Merci Benoît, tu nous écoutes, merci.
Pour le coup, je voulais parler de cinéma et en ce moment j'ai pas tellement le temps d'aller au cinéma, j'ai pas tellement le temps de regarder des films et du coup je savais pas par quel biais en parler. Et j'ai vu une émission qu'on trouve sur YouTube. J'ai vu ça il y a deux jours et je me suis dit, tiens, bah, c'est de cette façon-là dont je vais poser la question et ça va nous amener sur une discussion sur le cinéma et c'est cool.
Explique-nous donc le principe de
l'émission. L'émission s'appelle Rewind, ça se trouve sur YouTube. En fait, c'est des témoignages de vidéastes qui ont comme sujet le cinéma. Qui témoignent en fait de leur expérience d'enfant d'un film en particulier qu'ils ont regardé en boucle.
Donc premier choc cinématographique.
Voilà, le premier choc, ou au moins d'où le titre. Voilà, Rewind.
Et
c'est super beau. Là, tout à l'heure, on parlait de jeux vidéo, on parlait de trucs même au graphisme poétique, etc. Même dans la façon dont c'est fait, c'est juste une voix off, de la façon dont c'est compté, dont c'est écrit. C'est toujours quelque chose de très personnel et très sincèrement, moi, il y en a certains qui m'ont mis les larmes aux yeux parce que j'ai trouvé ça très très beau en fait d'évoquer juste le souvenir de, au-delà du film, le souvenir de que ça provoquait et la Madeleine de Proust en fait finalement
qui était en réalité une biscotte, hein.
Et de Berre, d'ailleurs.
Non mais c'est vrai, non mais vous pouvez rier, mais c'était en vérité une biscotte.
D'accord.
Ça n'a jamais été une Madeleine. Proust s'est rappelé de son enfance avec une biscotte et il a trouvé ça pourri.
Il a trouvé ça pourri.
Il a dit que la Madeleine c'est mieux et du coup c'est resté la Madeleine de Proust. Mais donc
je suis désolé, mais Proust était à la recherche du temps perdu. Donc est-ce qu'on est sûr que c'était vraiment une biscotte ou une Madeleine? Je pense qu'on checkera quand même.
Bah écoutez,
c'est un truc de dingue.
Il envoie du clash.
C'est génial en société. Tu sais ? Non mais vous saviez en fait, la Madeleine de Proust, c'est une biscotte.
C'est le petit savoir pour paraître intelligent après 25 bières.
Ah c'est génial.
Le Tupperware.
Putain, ça montre juste que personne n'a lu À la recherche du temps perdu.
Ah non, mais j'ai jamais lu Proust.
Je crois que c'est dans À la recherche du temps perdu.
J'ai jamais lu Proust, je te cache pas, je me suis jamais motivé encore.
Il me semble que c'est dans À la recherche du temps
perdu. Mais je le ferai.
On demandera à Maître Capello de vérifier.
Ok.
Mais on le sortira de la cave.
Enfin, lisez Proust, mais si vous avez du temps. Hein, parce que il faut avoir du temps perdu. Hein.
Ah ouais, faut avoir du temps à perdre. Okay. Ouais. C'est cool.
Pour le retrouver à la fin. Du côté de Chess One.
Du coup, je sais plus du tout ce qu'on disait.
Tu parlais de Rewind.
Voilà, je parlais de Rewind. La petite madeleine de Proust du moment cinématographique de l'enfance, les souvenirs qui vont avec.
C'est exactement ça.
Où il fallait rembobiner le doigt dans la cassette, là, que ça faisait mal. Voilà. Je me souviens tous de ce truc-là.
C'est ça.
Ça, c'est quand t'avais pas de magnétoscope. Mais si t'as pas de magnétoscope, tu regardes pas de cassette.
Si, mais il faisait pas rembobiner.
Non, mais des fois, il faisait pas. Moi, je prenais un ciseau. Tu prenais un ciseau que tu ouvrais comme ça, ça
j'avais peut-être,
Sans déconner, j'ai peut-être rembobiner des cassettes avec.
Non, mais on avait, on avait peut-être des magnétos de bourgeois. Alors on va se faire.
Non, il est jeune, il a pas eu de jeunesse.
On vous explique, ça c'est Paul. Moi, je Paul est né avec la clé USB, donc.
C'est ça.
Voilà. Mon magnétoscope, j'appuie sur rembobiner, rembobiner. Hein.
T'as dit quoi?
Mon magnétoscope, il rembobinait.
Ah ouais.
Je sais pas.
Ah donc le mec était déjà full option quoi.
Ouais, full option.
C'est ça, c'est comme je vous dis.
Non, non, mais attends, tu rigoles. Moi j'avais une petite télé avec le magnétoscope intégré et tout, c'était trop bien.
Et ça rembobinait pas.
Il y a des fois, bah quand le truc, il y avait un truc qui cassait ou je sais pas.
Les premières verres. Mais il y avait des trucs qui rembobinaient pas. Hein. Enfin, bien sûr.
Moi, du coup, on jetait les cassettes, tu sais.
Il fallait remonter au doigt comme ça.
Pas très écolo quand même.
Hein. Ouais, pas très écolo. Pas trop. Mais c'était à l'époque, on avait des sous, on se disait pas, allez, l'écologie. Là, les gars, ils sont écolos, c'est juste qu'ils n'ont pas de thunes.
Ouais, c'était à l'époque des cassettes vidéo, quoi.
Ouais.
Ça bref. Fait mal. Hein,
dans tous les cas, il y a eu ces cassettes-là qu'on a poncé, qu'on a rembobiné, qu'on a re-regardé. On regardait un film, on le rembobinait, on le re-regardait. Et c'était juste génial. Et pour le coup, bah, je me suis dit, pourquoi pas vous poser la question de quel film vous a marqué de cette façon-là quand vous étiez gamin, ou même si c'est pas forcément des films que vous avez pu voir en cassette, est-ce qu'il y a des films comme ça qui vous ont marqué à vie en fait quand vous étiez gamin?
Quand on était gamin, vraiment.
Ouais. Ces films-là, vraiment, on parle de même des films que t'as pas revus depuis ou quoi, tu vois. Là, moi, par exemple, moi, ça va être beaucoup l'étrange Noël de Monsieur Jack.
Ouais,
que j'ai pas forcément revu depuis, tu vois, et que j'ai en ce moment, je me dis, faudrait que je regarde ce truc-là quand même pour me refaire un avis, mais ouais, moi ça va être ça, par exemple.
Je t'avoue que je cherche moi.
C'est vrai que tu nous as posé une sacrée colle.
Ouais. Non, moi j'ai une réponse et j'en ai une, ouais, instantanément, et c'est ça. Obi-Wan Kenobi. Non, parce que tu as parlé de la cassette vidéo, que j'ai pensé à ce film-là en premier. C'est Toy Story, le premier, qui est sorti en 96.
Absolument
donc
génial.
J'avais 7 ans. J'avais 7 ans, donc mon frangin était tout jeune. Il avait 1 an. Ouais. Et quand il était chez la nourrice, il demandait cette cassette tout le temps, en boucle, et même chez mes parents, en fait. Et du coup, ce film, on l'a poncé, comme tu as dit. Je ne l'ai pas vu depuis très longtemps, mais je pense que si je le voyais, je serais capable de te le réciter d'un bout à l'autre.
Et bah, tu sais quoi, je l'ai revu, moi, il n'y a pas l'année dernière, l'année d'avant. En fait, à Noël, je me fais toujours une soirée. Moi, je ne fête pas Noël, je me fais toujours une soirée où je regarde des films. Et puis souvent, c'est des films comme ça de quand j'étais gamin.
Les films de Noël, un peu.
Voilà, même pas de Noël, parce que les films en eux-mêmes ne sont pas de Noël, qui me rappellent mon enfance.
Non, mais c'est
Noël,
quand je dis films de Noël, c'est du coup, c'est des films qui te. Un peu cocon, tu vois.
C'est ça.
Confortable à regarder, exactement. Parce que tu les connais c'est bien, parce qu'ils sont marrants, et puis voilà.
Et puis tu les as pas vus depuis longtemps, c'est l'occasion. Et je me suis fait, du coup, les trois Toy Story, le marathon, les trois Toy Story. Le premier, alors moi j'en étais pas là à connaître les dialogues, etc. Ça va plus être genre avec Retour vers le futur où je vais connaître les dialogues. Et alors pour le coup, les ayant revus là il y a 2 ans, Toy Story 2 est extrêmement drôle. Vraiment, vraiment très très drôle. J'ai dû mettre pause à un moment donné sur une vanne tellement elle m'a fait rire. C'est vraiment
très drôle. Là
je l'ai plus, je te cache pas, je l'ai plus. Mais
c'est dommage.
Mais c'est l'occasion de remater le film.
Moi les Toy Story, c'est pas un truc que dans lequel j'ai trop baigné.
Ça, j'ai pas accroché non plus Toy Story. Ouais.
Mais après, c'est une époque aussi. Moi, je l'ai vu au cinéma, tu vois. Et ce truc-là, au cinéma, t'as jamais vu de numérique.
2 février 2002, le 2-2-2 Toy Story 2.
Ouais.
Il est sorti le 2 février 2002. Ouais.
Voilà. D'ailleurs, si vous avez des questions sur des dates de sortie au cinéma, demandez à Étienne. si vous vous demandez tous quand est sorti La Grande Vadrouille, il pourra vous le dire. Je crois que c'était un jeudi, d'après. De mémoire,
il pleuvait. Ah non,
les sorties cinéma, c'est le mercredi.
Il était à Tourcoing. Oui, c'est le magicien.
Non, mais je m'en souviens parce que c'était le 2 février 2002.
Non, c'est vrai.
Et tu vois, quand le 3 est sorti, j'y suis allé à la première séance du premier jour. C'était en 3D, machin. J'avais mon CDI, machin. Et j'y suis allé comme un gosse. J'ai vu le film. J'ai trouvé ça génial. Et dans la salle, il n'y avait que des mecs de mon âge. On était peut-être 5.
Normal.
Et on est sortis tous le sourire aux lèvres, tu vois. Et y a eu un petit regard quand tu sors d'un film et tu sais que tout le monde a ri, que tout le monde a le sourire, tu sais, les gens se regardent un peu et c'était ça. Et on s'est dit, putain, c'était trop bien. Et je crois qu'il y a un 4 qui est en préparation, il me semble.
Oui, il me semble. Ils en parlent, des trucs, mais ça va être chiant. Ouais.
Ils en parlent et franchement, Toy Story, ouais, grave. Bon, okay.
Moi, il y a un film, c'était pas une cassette.
Ouais.
C'était, je regardais assez peu de films quand j'étais petit, j'étais plutôt quelqu'un qui allait jouer dehors. Et un jour, il y a ce film-là qui est passé à la télévision et mes parents m'ont dit non, tu ne sors pas, tu vas rester là, tu vas regarder le film en entier. C'était Forrest Gump.
Ah ouais,
j'étais assez jeune, je me souviens plus exactement quel âge j'avais, je devais avoir 12-13 ans. Et je demande la durée du film parce que j'avais des choses à faire quand même. Et on me dit, bah, il est assez
dehors,
long. Notamment jouer dehors, il me dit, il dure 2 heures. Du coup, je trépignais, j'étais là, oh non. Et je me suis laissé happer par ce film, plein de naïveté, plein de beaux messages en fait, de simplicité. Et ça reste, pour moi, ça reste un des grands films qui me fait du bien et qui remet un peu les idées en place. Quoi. T'es là, oui, c'est une fiction, oui, mais en même temps, ça fait du bien. Quoi.
Et alors,
cette histoire-là, je la trouve assez belle. Quoi.
Et alors, du coup, est-ce que ça n'a pas participé au fait que maintenant, t'es convaincu que c'est en s'habillant n'importe comment qu'on va changer le monde?
Ouais,
mais la question est sérieuse, c'est-à-dire que tu parlais de simplicité,
oui,
là, en parlant de Forrest Gump, c'est que c'est des valeurs
ouais,
simples
voilà.
En fait.
Ah, c'est que c'est peu importe ce que tu es ou
ton bagage de
c'est
base.
Ça, c'est ton bagage de base et c'est aussi ce qui fait c'est des rencontres et ce que toi tu engendres en fait, ce que tu actives, c'est pas d'où tu viens, c'est les manivelles que tu tournes en fait qui sont intéressantes.
Tu vois, je demandais ça dans le sens où un gamin qui aurait été nourri à Scarface petit,
oui,
peut-être
bah,
que
oui,
lui,
bien sûr,
il aurait peut-être pas mis les valeurs, ces valeurs-là en premier dans sa vie. Qu'est-ce que ça peut pas conditionner
oui, pense,
ça aussi
bah,
tu vois.
Je pense qu'il y a une sorte de rêverie perpétuelle. Quoi. Tu restes bloqué dans un univers assez onirique
bah ouais.
Et t'es là.
Là, tu parlais de Toy Story.
C'est ça.
Tu parlais de Toy Story, tous les dessins, tous les gens qui ont consommé des dessins animés petits et qu'on continue à consommer de l'animation derrière, ça va beaucoup être des esprits créatifs, tu vois. T'as ce truc-là, ça conditionne aussi les objets culturels que tu consommes. C'est,
oui, bien sûr. Surtout jeune, quoi. Enfin...
Bah ouais, et pour ça, quand tu parlais de simplicité, ça m'a évoqué ce que tu disais. D'accord. Ah, revenons à quelque chose de simple et viens, on s'en fout comment on s'habille. Tu vois.
D'accord, ouais, merci.
C'est pour ça que je demandais ça.
Non,
c'était
mais
pas
je viens de me faire
vanne,
canaliser
hein.
Par rapport à. Peut-être que je vais aller faire. Je vais aller traverser la France.
Voilà,
à pied,
c'est
le
4/4. tu passes, tu t'allonges sur le canapé.
Faut que tu le fasses en courant, du coup, sinon ça.
Bah oui,
sinon,
faut, ça que fasse, faut que tu fasses en courant. ça va me saouler un peu, mais.
Et du coup, t'es allé à la boutique de Booba Gump sur Times Square ou pas?
Je suis pas.
Ça existe vraiment?
Ça existe vraiment.
Non.
Ils ont un rayon
de la crevette et tout.
Ils ont un rayon DVD. Où c'est que Forrest Gump.
Ouais.
C'est
que ça, que le bel film.
Genre, ils font resto, crevettes, machin.
Non, ils font, en gros, c'est les produits dérivés de la boutique Booba Gump.
Ah oui,
donc
d'accord.
T'as des goodies Booba Gump, t'as les t-shirts Booba Gump et
pas
tout. Et c'est sur Times Square et c'est pas mal à voir
pas mal.
Si jamais vous passez un week-end à New York.
vous perdez dans ce coin-là.
Ouais, voilà, si vous passez par là, c'est marrant à voir si vous aimez bien le film. C'est cool.
Ouais, et puis même, je trouve toutes les phrases qui restent de Forrest Gump sont assez jolies, quoi. Ouais. Enfin, que ça soit cours Forrest avec la petite fille qui est.
La vie, c'est comme une boîte de chocolat.
On sait jamais sur quoi on va tomber. Booba qui meurt et qui dit je veux rentrer chez moi. Enfin, tout est beau, c'est assez humain, quoi. T'es là.
Enfantin, limite. Ouais.
C'est ça. Ça te met dans une sorte, tu ressortes un peu comme Amélie Poulain. Quoi.
Ah bah là moi, personnellement, je suis un peu en train de fondre, rien que d'en parler, en fait. Ouais. Tu vois, Cours Forest, je trouve que cette phrase, elle contient tout
génial,
le film, de toute façon.
C'est ce désir de liberté, de sortir
de toute façon,
honte,
quel que soit ce que tu as, il faut agir, il faut faire les choses.
Même si tu as des armatures en fer sur les jambes.
Bah, tu vois, moi, c'est un film qui m'a marqué parce que, évidemment, le film est ouf, mais c'est pas un film que j'ai revu, donc je me souviens
moi non
pas
plus, ouais.
Vraiment.
Ouais.
Et en fait, à chaque fois que je me dis, faudrait que je le regarde, j'arrive jamais à trouver le bon moment pour le regarder parce que je sais que c'est un film qui va me faire vivre des choses et j'ai du mal à trouver le moment où j'ai envie de les vivre, en fait. Mais c'est vrai qu'il m'avait beaucoup marqué,
ouais,
même sans vraiment m'en souvenir.
Ouais, ouais.
Il m'a beaucoup marqué. Et puis, comme tu parlais des répliques, le fameux Cours Forest, il est rentré dans le langage usuel.
Bien sûr, c'est
de
la culture populaire, quoi.
Voilà, comme nous, tu vois, dans les comédies qu'on a regardées, elles sont rentrées dans notre langage et on n'y fait même plus attention. Donc voilà, ça reste un
film
qui a marqué.
Ça reste quand même une fresque sociale de l'époque. Enfin, il y a l'affaire du Watergate avec Nixon, il y a toutes ces choses-là, ce courant hippie, la guerre du Vietnam.
La rencontre avec Kennedy. Enfin, c'est ça. Du coup, c'est un moment d'histoire, c'est un cours d'histoire des États-Unis,
en fait.
Ouais,
exactement. Ouais. Et c'est ça qui est assez perturbant, c'est que derrière ce truc assez joli, on t'emmène vers un regard un peu, pas critique, mais il y a des choses derrière, quoi. C'est pas juste...
Oui, c'est faussement naïf.
C'est
ouais.
ça, c'est ça. C'est pas juste de la poudre aux yeux et ça pétille, c'est agréable, quoi.
Et vu que c'est basé sur l'histoire avec un grand H, ça reste une critique actuelle aussi, quoi.
Bien sûr.
Et c'est là où c'est très
intéressant. Bien sûr, c'est une histoire très contemporaine en plus de...
Alors, je vais passer pour un nulos, mais qui est-ce qui a réalisé ce truc-là? Je me souviens
c'est
plus.
C'est Azanavicius, Michel Azanavicius.
Non, c'est Robert Zemeckis, je crois.
Michel Azanavicius.
Je crois, ouais.
Est-ce qu'on T'es sérieux Michel Azanavicius, le mec qui fait les détournements. Le mec qui fait les détournements, il a fait Forrest Gump.
Ça, c'est OSS 117.
Ouais, c'est plutôt ça. Ouais.
Bah ouais, Azanavicius, c'est un peu. Ouais, non, il a pas fait Forrest Gump. Bah,
ouais. Il me semble
à
que.
À qui pensait passer pour un con
Il me semble que c'est Robert
Zemeckis.
Il me semble que c'est Robert Zemeckis.
Parce que je suis Zemeckis, en train de... c'est quand même un dieu.
Je suis en train
Azanavicius.
De... Oui, tout à fait, c'est bien ça. En 1980, sorti pardon, en 1994 et réalisé par Robert Zemeckis.
Tu m'as saoulé, je te jure, tu m'as saoulé. Azanavicius.
Oui,
non,
bah
Zemeckis, c'est
bon,
un génie.
C'est
voilà, bon. On parlait de Retour vers le futur.
Bah oui, voilà.
Zemeckis, quoi.
Oui, bah c'est 84, quoi.
J'ai pas trop kiffé Retour vers le futur.
T'as
85.
Dit quoi
j'ai pas trop kiffé.
Ouais, mais toi, t'es un connard.
Ah non, mais enfin, excuse-moi. Moi,
alors, Marty
ouais. Mais voilà.
Pour les auditeurs qui sont encore avec nous, je pense qu'on peut jeter des trucs.
Je pense qu'on peut le tutoyer. Je pense qu'on peut le tutoyer.
Je pense qu'on peut le tutoyer.
Le mec n'a jamais rêvé de rouler en DeLorean, donc déjà, c'est bizarre.
Non, parce qu'elle est moche de base, donc.
Hey, on va te passer
les portes papillons quand même, les portes papillons.
Excuse-toi,
il y a
une bagnole qui a une gueule pareille qui peut pas rouler à plus de 90 km/h. Enfin, c'est
pas plus rien.
Elle va pas à plus de 90 km/h, elle va dans le passé.
Puis c'est en miles à l'heure déjà.
Et d'ailleurs c'est.
Oui, non mais 90 parce que c'est 80 miles à l'heure, je crois.
C'est 88.
Ouais, bon, bah, ça va, 100 km/h.
Non, attends, j'avais lu un truc sur le choix de la voiture, sur le choix de cette voiture justement. Parce que c'est une voiture qui a été sortie à très peu d'exemplaires. C'est une voiture écossaise qui n'a pas marché du tout à l'époque. Elle est sous-motorisée. C'était une, là, pour le coup, c'était run poubelle, en fait.
Oui, c'est ça.
Et simplement, ce pourquoi elle l'a pris, c'était pour les porte-papillons.
D'accord.
Et c'était donc pour la première scène où elle apparaît, quand elle rentre dans la grange. Et il y a la fumée, et du coup, il y a beaucoup de fumée dans la grange, et les porte-papillons s'ouvrent.
Oui, ça lui apporte un petit côté vaisseau spatial.
Exactement.
Un peu,
Et c'est pour ça que le choix de la voiture s'est porté sur cette voiture-là, alors que c'est une voiture qui a... Enfin, c'est un flop, quoi. C'était une voiture assez.
Et puis pour le coup, c'est une voiture qui coûtait pas cher pour un tournage aussi. Mm. Tu vois, il y a de ce truc-là. Mais pour le coup, maintenant, il me semble, si je me trompe pas, qu'il en reste à peine quelques milliers en fait des DeLorean, parce que de toute façon, ça n'a pas été beaucoup produit à ce moment-là.
Oui, et puis même garder une voiture comme ça, ça avait assez peu d'intérêt en réalité.
Voilà.
Quoi.
Et il y a eu Retour vers le futur, et maintenant, c'est une voiture de collection. Et sérieux, c'est une voiture. C'est pas
ça aurait été quand même une voiture de collection parce que c'est un entrepreneur, c'est un mec qui s'est dit je vais créer ma caisse. Bon, bat les couilles du reste, je vais créer ma caisse.
C'est un mec comme ça autonome.
C'est mec, ouais, c'est ça. D'accord. C'est un mec qui l'a fait, bah, je vais faire une bagnole. Je le fais. Et il l'a fait. Donc, c'est une bagnole qui est de ça super mythique parce que elle dit fuck à tous les gros constructeurs. Ouais. Quoi.
Elle sort de nulle part, quoi.
Ouais, elle sort de nulle part, exactement. C'est
d'accord.
Alors, pourquoi tu nous les brises, alors?
Non, mais la caisse, c'est... Bon, même si c'est un peu une...
Parce que là, tu commences à dire mais Retour vers le futur, c'est claqué, la caisse, elle est rincée. Mais non, c'est bien.
T'as pas aimé du tout, quoi.
Mais c'est pas que j'ai pas aimé, je pense que je l'ai regardé trop tard. C'est juste, ça m'a pas fait rêver, tu vois. J'ai regardé Star Wars jeune, ça m'a fait mais rêver.
Si on parle de Star Wars, on va pas s'en sortir.
Si on parle de Star Wars, moi je me casse. Hein. Voilà.
Bon, il y avait quand même déjà l'overboard.
Ah oui, c'est vrai. Oui.
Ouais, mais moi quand je l'ai regardé, c'était déjà claqué, tu vois. C'était déjà les effets.
Mais c'est pas claqué. Mais même aujourd'hui, c'est pas claqué.
Je sais pas. Moi, c'est mon avis, hein, tu vois. Après.
D'ailleurs, à propos de produits de Retour vers le futur. Quand ils vont, justement, Marty va dans le futur, il a une paire de chaussures Nike qui se laisse toute seule.
Ils l'ont fait.
Écoutez, je ne sais plus combien de milliers d'euros cette paire de chaussures.
T'as un petit moteur dedans et elle se lasse toute seule.
Mais c'est trop bien. Puis même techniquement, c'est trop bien. Il y a des scènes entières qui sont rejouées de film en film, qui sont rejouées avec exactement le même figurant au même moment qui passe au même endroit. Tu vois, c'est trop bien, Retour vers le futur, c'est beaucoup trop bien. Vraiment. Attends, Retour vers le futur. C'est quoi, toi, ton film qui t'a...
Qui m'a marqué mon enfance Moi, c'est l'un des premiers Pixar, c'était Mille et une pattes.
Mille
et une
pattes.
Avant que Pixar soit racheté par Disney.
C'est vrai que c'était bien.
Moi, je l'ai pas trop aimé à côté de l'avalanche de films que Pixar a produit.
C'était mon premier film d'animation.
Ouais, je comprends.
J'ai bien aimé aussi Paul, je te rejoins là-dessus.
J'ai trouvé ça trop bien.
Ouais, l'espèce de compagnie de. Un peu de paria et tout, là même après.
Bah, tu vois ce qu'on a pu vivre avec Toy Story.
Ouais, voilà, bah oui, c'est ça.
En sachant que Toy Story, là, pour le coup, c'était vraiment le premier film fait entièrement comme ça. Donc, moi, celui-là, Mille et une pattes, pour le coup, je l'ai vu au cinéma quand j'étais gamin et je me souviens plus vraiment du film, mais moi je me souviens de, tu sais, moi à l'époque, enfin tu sais, t'avais le journal de Mickey, les trucs comme ça, et donc ils font de la pub à fond sur ces trucs là et je me souviens plus de toute la pub qu'il y a eu autour que du film en lui-même. Mais je serais intéressé de le revoir parce qu'effectivement c'est un dont je me souviens absolument pas. Tous les Pixar, je m'en souviens un peu, quoi.
Le film a pu nous échapper quand même. Moi je me souviens quand même de la grosse chenille Heimlich, déjà il fallait trouver le nom,
le truc
sérieux
qui devient papillon à la fin du film. Ça, c'est
non,
c'est quand même pas mal.
T'as une grosse chenille qui s'appelle Heimlich qui devient un papillon. Ah, c'est
elle, elle a un accent et tout. Elle a
un gros accent allemand qui tâche. C'est génial.
Non, mais c'est quand même pas cool ce que ça raconte, tu vois. C'est...
Ouais, non, on est d'accord. C'est limite morbide. Oui,
bah ouais. Même les nazis peuvent devenir des papillons.
Non, mais c'est cool. Même dans les
Heimlich, Heimlich n'était pas nazi. Heimlich, c'est la manœuvre de Heimlich. La manœuvre de Heimlich qu'on fait aux gens qui s'étouffent.
Alors, comment il s'appelle le nazi ?
Toi, tu confonds avec Heinrich Himmler.
Ouais. Ah ouais, c'est ça. Ah bon, ok, désolé pour cette blague alors.
Désolé s'il y a des nazis qui
Non, mais il y avait une histoire assez belle dans Mille et une pattes, justement, avec cette espèce de lutte contre les méchantes. C'était des sauterelles, c'est ça ?
Les méchantes sauterelles,
et on est plus petits. Il y avait un peu une sorte de David et Goliath, on va réussir à les vaincre par notre nombre, notre volonté. Et donc, il y a vraiment des. Ça faisait partie de ces un petit peu des petites leçons de vie de.
Ouais, c'est ça pour les gamins. C'est des trucs que tu. Ouais, voilà.
Il me semble que DreamWorks avait produit un film un peu sur la même espèce de thématique. C'était Fourmis.
Fourmis. Ouais.
C'est DreamWorks, je crois, et qui était pour le coup moi qui m'avait que je trouvais plus flippant quand j'étais môme. L'esthétique était
grave.
Moins.
Ouais. C'était moins sympathique. C'était moins Disney.
Les dessins, en fait.
Et puis, je sais pas, moi, le film, je l'ai même pas vu. Je crois.
Et puis, moi, j'ai souvenance d'une bataille contre des termites qui a un peu. Ouais. Bah, ça reste de l'image de synthèse, mais quand t'es môme, t'es impressionné assez rapidement par des images.
Les insectes, de toute façon.
Là, récemment, il y a eu un film d'animation qui est sorti sur des fourmis aussi. Ça s'appelait Minuscule.
Ouais.
Je sais pas si vous en avez entendu parler.
C'était une série, ça. Ça, c'était une série, il me semble.
Non,
il y a eu un film.
Un film, c'était Minuscule. Un film d'animation. Le parti pris était assez étrange, aucun dialogue.
Ouais, bah oui, c'est ça. Et à la base, c'était une série, d'accord. Il me semble. Une série d'animation pour les enfants.
Ah, donc ça a été un long métrage derrière.
Et après, ils ont fait un long métrage.
Probablement.
À confirmer, mais il me semble qu'à la base, c'était une série des petites vignettes, je crois, 2 minutes 30.
Ouais, j'étais un peu impressionné de. Enfin, je trouvais que c'était un peu mouvement contre-culture, quoi. On va faire un dessin animé d'animation sans dialogue. Hop, on vous envoie ça. Je trouvais que c'était osé. Je tire mon chapeau. Bravo.
Ce qui est marrant, c'est que là, en discutant de tout ça, déjà, on se rend compte que c'était pas mal des films d'animation quand même qui nous ont fait, vibrer, je pense. C'est le mot.
Mais alors, moi, pour le coup, c'est pas vraiment forcément le film qui m'a le plus fait vibrer, mais c'est.
Non, mais c'est celui dont tu as parlé.
C'est celui dont j'ai parlé parce que c'est celui aussi qui avait cette place privilégiée d'être tout le temps dans le magnétoscope et parce que c'était aussi dans le format de la cassette, mais tu vois, Retour vers le futur, je regarde les trois une fois par an, alors que L'étrange Noël de Monsieur Jack, je ne l'ai pas revu depuis une paye, vraiment depuis une paye. Et tu sais, quand t'es petit et que tu regardes un film avec le boîtier de la cassette dans la main, et que bah, des fois tu regardes le film et pendant le film tu re-regardes la pochette, tu vois, et là, bah, L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est en stop motion. Moi, c'était la première fois que je voyais un truc comme ça. J'étais fasciné par regarder à la fois l'affiche et les personnages qui sont pris en photo entre guillemets et les voir s'animer en même temps sur ce truc-là. Et t'avais aussi le côté, il y avait des bandes annonces.
T'as les bandes annonces qui restaient
sur les cassettes. Après les bandes annonces, en fait, sur cette cassette-là, il y avait un court métrage de Tim Burton qui s'appelle Vincent. Putain, d'ailleurs, c'est marrant. Sur un gamin psychotique, enfin. Quelque chose de très, enfin je sais pas si c'est psychotique, mais quelque chose sur la solitude, sur la folie à moitié, un truc en noir et blanc crayonné, magnifique. Et en fait ce truc là il me fascinait, il me faisait flipper en même temps, et des fois je regardais le film sans regarder le court métrage, et des fois je regardais le court métrage, à tel point que je pense que là, si je regardais le film, il faudrait que je re-regarde le court métrage avant juste avant,
que
en fait,
une cohérence par
qui est cette
ce
cohérence
vécu,
parce que pour moi les deux vont ensemble en fait. Et quand j'étais vraiment gamin, les premières fois, je me demandais c'était quoi le rapport entre les deux, parce que quand je voyais le court métrage, je me disais c'est le début du film, et arrivé dans le film, je me disais, pourquoi on en reparle, enfin c'est quoi, pourquoi il n'y a plus de rapport. Et c'est qu'après que j'ai dit ah ouais ok, mais tu sais, quelques visionnages plus tard.
Juste quoi. Stop motion, c'est quoi, c'est photo par photo
C'est ça, comme Voilà c'est Gromit.
Ok, d'accord.
Tu vois,
des photos bah, et
Voilà c'est Gromit
secondes, ok,
exactement.
Il suffit qu'on parle de Voilà c'est Gromit, moi ça c'est pareil, c'est génial, c'est une avalanche de souvenirs. Robbie, je sais pas si vous connaissez la série qui s'appelle Robbie le Renne,
parce que ouais
tu vois, il y a eu c'est voilà, c'était deux espèces de moyen métrage format télé, je pense.
Ouais, c'était les films de Noël.
Et c'est ça. Et c'est les mecs de Voilà c'est Gromit, je crois, qu'on fait ça. En fait, c'est l'histoire de Robbie le Renne, le fils de Rudolph, qui a eu ses propres dessins animés. Sauf que Robbie est un loser absolu, ouais, flemmard, et c'est lui qui est censé devenir le guide des rennes du Père Noël.
Ok.
C'est ce qui
ça
est...
me donne envie de regarder.
Hein. Ah ouais, c'est géant parce que comme Toy Story, comme toute cette génération de films, il y a à boire et à manger pour toutes les générations. C'est-à-dire que tu mates Robbie le Renne, c'est anglais, quoi. Donc t'as l'humour anglais à fond, et en même temps c'est très joli, l'esthétique est pâte à modeler.
Comme tu as dans Voilà c'est Gromit.
C'est ça.
Mais alors, est-ce que Robbie le Renne, c'est pareil, c'est les studios Hardman qui font ça?
Ouais, de mémoire c'est eux, ouais.
Je crois bien, dans le style ça peut que...
Moi
ça...
dans le même genre j'avais...
c'est la BBC qui a produit. Ouais,
Chicken Run est drôle.
Ouais. J'avais Chicken Run et Avalanche de Rire. Hein.
Putain, ouais.
Enfin, des poules un peu nulles qui veulent s'échapper. Déjà le pitch est extrêmement drôle.
C'est ça, c'est la prison, quoi. C'est génial.
J'ai trouvé ça...
C'est un film de gangster.
Et
avec
c'est un remake.
Poules,
c'est pas un remake de La Grande Évasion, je crois.
Je sais pas du tout.
Il me semble que ça a été vendu comme ça à l'époque. Ils avaient dit, c'est inspiré de La Grande Évasion et tout. C'est un remake, quoi.
Comme qu'on peut
délire, quoi.
Il suffit d'expliquer.
Alors, pour le coup, là, depuis tout à l'heure, on parle de grands studios d'animation. Les grands studios d'animation que sont Pixar et que sont les studios Hardman, pour ne citer que. Si vous avez l'occasion, il y a un musée à Paris qui s'appelle, je crois que c'est le musée des arts ludiques, enfin ça s'appelle les arts ludiques, qui se trouve sur les quais de Seine, qui fait souvent des expositions, qui a accueilli là dernièrement l'exposition Pixar et l'exposition Hardman, qui étaient deux expositions absolument fabuleuses. Où il y avait beaucoup de contenu, où il y avait pour les studios Hardman par exemple, il y avait des maquettes, il y avait des éléments qui ont vraiment servi dans des films à taille réelle, donc notamment pour ceux qui ont vu Le Mystère du Lapin-Garou de Voilà c'est Gromit, il y a le Lapin-Garou en taille réelle, une des marionnettes qui a été utilisée, enfin, c'est super intéressant, et tu vois tout le cheminement en fait, tout leur travail, et tu retraces l'histoire, donc tu vois les tout premiers trucs de Pixar, les tout premiers trucs d'Hardman. Et ils font régulièrement, ils accueillent régulièrement des expositions comme ça qui tournent au niveau mondial en fait. C'est les arts ludiques, c'est vachement intéressant.
Je pense pour ce genre de, surtout pour ce genre de film d'animation, ça permet de comprendre tout le travail qu'il y a derrière, quoi, parce que c'est quand même un boulot monstre.
Et puis surtout
pour une heure d'écran, quoi.
Voilà. Et puis surtout maintenant que t'es adulte, c'est que tu te rends compte de ça. Et même en ayant vu ça, quand tu regardes le petit le petit montage vidéo d'un film, s'il y a un moment drôle qui passe, qui t'a fait rire quand t'étais gamin, tu vas rire. Même si juste à côté, tu vois les images détaillées de comment ils ont fait,
oui,
etc. Et l'envers du décor. Et c'est ça qui est super intéressant. À l'Expo Hardman, il y avait le film Pirate qu'a fait les studios Hardman. Ils ont ramené un des exemplaires du bateau qui a été utilisé. Il y avait dans ce film-là, on suit une troupe de pirates, donc ils ont un gros bateau, et le bateau, il doit faire genre peut-être 1m80 de haut. Enfin, la maquette, elle est énorme, ultra détaillée, etc. Et elle était là, et on pouvait la voir. On était à derrière la vitre, à moins d'un mètre, quoi. Et c'était juste magnifique. Pour le coup, ça fait pas perdre la magie à ce que nous on a vécu en voyant ça.
Okay.
Et je pense que c'est super important de continuer à aller voir de l'animation et amener les gosses voir de l'animation. Parce que des films qui sont sortis dernièrement comme Vice Versa, même le dernier Disney qui était sorti, le Disney qui est sorti en 2016.
Moi, je vous pensais Ma vie de courgette.
Ouais, il faut que je le mate, lui.
Alors, ma vie de courgette,
c'est un gros délire, ça.
Petit film d'animation, très peu de com, et hyper beau.
C'est français.
C'est français, ouais. Sur un enfant qui perd sa maman, qui se retrouve en centre d'accueil. Et du coup, sur la difficulté des enfants. Enfin, ça... vraiment beau. Il y a très peu de com qui a été faite dessus. C'est un petit studio indépendant. Enfin bon, voilà.
Et il y a un film.
Il y a des tas de choses à aller voir qui sont des très bons. En plus, l'animation, c'est un très bon vecteur, quoi. Ça fonctionne bien et on peut transmettre énormément de choses de manière hyper simple.
Alors, pour le coup, un film que je pourrais conseiller aussi pour conclure, pour ma part, d'animation qui est sorti il y a quelques années, en 2010 ou 2011, qui s'appelle L'Illusionniste. Si je ne me trompe pas, oui, c'est ça, c'est L'Illusionniste. C'est un film d'animation en fait, qui, à la base, avait écrit Jacques Tati. Et il avait pas, il l'a pas fini en fait, et le truc a été fini, a été fait, et donc c'est animé, je sais pas si c'est le même studio, mais c'est animé à la même façon que les triplettes de Belleville.
Ok.
Et c'est muet de fait parce que c'est Jacques Tati qui l'a écrit, et ça raconte, et moi j'ai été bouleversé par ce film là parce que il est sorti à l'époque où le volcan au Havre, la scène nationale au Havre allait être fermée pour travaux, où bah, pendant un moment, on n'allait plus avoir de salle de musique, enfin de SMAC, de salle de musique actuelle. Enfin, voilà, c'est un moment où il y a eu une rupture au Havre, un truc culturel qui s'est passé. Et en fait, ce film-là raconte, entre guillemets, la mort du spectacle vivant, en fait. Et c'est Jacques Tati qui l'écrit, c'est animé par, il me semble, les gars qui ont fait les triplettes de Belleville. C'est juste magnifique, vraiment, vraiment.
De toute façon, quand tu dis Jacques Tati, tout de suite, ça élève.
Bah, ça élève le truc.
Ouais, ouais, ça élève à un niveau, tu dis bon.
Ouais, ça dépend. Hein. Quand tu dis Tati, c'est pas toujours pour élever le truc. Mais, allez voir ce film. Enfin, ouais. Voyez ce film, c'est vraiment, vraiment très bien.
Du coup, c'est cool parce que j'allais. Il reste une bonne minute. On a le temps de faire un rapide tour de table histoire de conseiller un peu, de filer chacun notre petit conseil de film de l'enfance. Un film qu'on a beaucoup aimé dans l'enfance et qu'on peut regarder aujourd'hui en tant qu'adulte. Paul, t'as une idée ?
Moi, ce ne sera pas un film. C'est une série que j'ai découvert il y a genre 2 semaines, qui est super. C'est une série sur la Seconde Guerre mondiale qui a été faite... Non, mais c'est vraiment génial. Ça s'appelle Les Grandes Vacances.
On l'a dit pour enfants, Paul.
Mais c'est pour enfants. C'est une sorte de petite série qui raconte l'histoire de deux enfants parisiens qui vont chez leurs grands-parents pendant les Grandes Vacances et la guerre se déclare.
Oui,
et en
c'est
fait,
vrai.
Ils restent en grande vacances pendant toute la guerre.
Ok,
d'accord.
Et c'est leur histoire.
Ils descendent en zone libre. Ça se passe en France ?
C'est
ou...
pas en zone libre, c'est dans la Manche en fait.
D'accord, ok.
Et donc en fait, on voit l'arrivée des Allemands et, okay. Et c'est tellement bien raconté que tous les Allemands ne sont pas méchants, tu vois. C'est...
Ok.
Il n'y a pas ce délire de lui c'est un méchant, lui c'est un gentil.
Pas mal.
Et c'est très beau.
C'est marrant parce que mon conseil à moi perso, il va rejoindre un peu ça. Vincent ?
Moi, Pinocchio. Pour empêcher les enfants de mentir, tout simplement.
D'accord.
Ce mensonge, c'est trop nul et écouter sa conscience, c'est super bien.
Je pense, voilà. Je pense qu'il y a une bonne partie de notre personnel politique qui devrait regarder Pinocchio, du coup. Hakim, je vois que tu as les mains prises, mais voilà.
Moi, conseiller, je sais pas trop, en fait, parce que juste conseiller un film qui, moi, m'a plu, je suis pas sûr que ce soit pertinent, vu que moi, ça m'a touché. Et je sais pas si voilà ça touchera les gens.
Oui, tu peux nous le dire ça. Aussi ton conseil.
Mais non, mais en fait je sais. Bah, en fait je sais pas trop là. Tu me prends un peu au dépourvu. J'étais en train d'y réfléchir. Ouais, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Plus que l'étrange Noël de Monsieur Jack, à la limite, je vous dirais de regarder le court métrage Vincent de Tim Burton.
D'accord.
Voilà, Tim Burton. J'en pense que j'en pense aujourd'hui, mais je trouve que ce truc-là, il reste quand même vachement bien. Et ouais, je conseillerais juste de regarder ça comme ça. Et puis. De continuer à soutenir l'animation et d'aller voir de l'animation, ouais, okay. Parce que c'est cool.
Et bah, pour ma part, ce serait un film qui s'appelle L'Empire du Soleil, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. paraît-il que lorsque j'étais môme, j'étais fasciné par ce film et que je l'ai beaucoup regardé, alors que moi, personnellement, j'en ai pas énormément de souvenirs. sauf de l'avoir regardé, pour le coup, par curiosité, quand ma mère m'a raconté que j'aimais ce film.
Alors que personnellement, je m'en balèque.
Non, et effectivement, ce film est magnifique. Il raconte l'histoire d'une famille avec un enfant unique, incarné par un monsieur qui s'appelle Christian Bale, quand même, quand il avait 12 ans, je crois. Donc, il me semble que c'est son premier rôle au cinéma. Et donc, cette famille anglaise habite en Chine, en 1937, au moment où le Japon envahit la Chine, juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Et l'enfant et les parents sont séparés, donc il doit se débrouiller tout seul. Dans la Chine occupée par le Japon.
Ok. L'Empire du Soleil.
L'Empire du Soleil avec Christian Bale et Ben Stiller à l'intérieur du film qui apparaît aussi.
Ça crée pas
d'accord.
Mal.
Ouais.
Intéressant. L'Empire du Soleil, bah on regardera ça.
Donc je vous conseille ça. Et c'est la fin du 4K.
Oh non.
Le deuxième 4K.
C'est la fin du 4 quarts. Moi, j'ai envie de dire, est-ce qu'on mettrait pas un petit morceau?
Ah
et
oui,
si
après
on se dit au revoir.
Bah, moi, juste, je voulais remercier les gars, Kim, Paul et Etienne, juste... de m'avoir accueilli
merci.
En tant qu'invité. Merci à vous.
C'est justement pour ça que je voulais mettre un morceau, puis après on se dit au revoir, non ?
Ben on va se faire ça.
Parce que hey, je t'ai pas oublié ton clash tout à l'heure. Hein.
Oh non, ouais. Je pensais qu'il était passé à la trappe.
Vas-y. Alors Hakim, vas-y.
Tu croyais qu'on était passé à de la trappe ? Non, ce sera pas excellent. De la trappe. Faut juste que je. Parce que tu vois, depuis tout à l'heure, on parle et la preuve que c'était très intéressant.
D'accord,
j'ai
donc en fait, il faut
pas chercher le morceau.
D'accord, donc en fait, là, t'es en train de nous demander de meubler en fait.
C'est ça. Si vous pouviez meubler,
ah,
ce serait
bien. On va faire, on va aller faire un petit. Pour meubler, on va aller faire un petit crochet.
IKEA.
Oh là là.
C'est mauvais.
Ouais, c'est mauvais. Vas-y. Tu sais quoi, je vais balancer le morceau.
C'est parti là.
Alors, je vais juste pour dire, voilà, c'est un morceau de Seth et l'artisan. Avec Soclac, c'est un morceau qui s'appelle Tutu où en fait ils reprennent donc ce code là de Lego Trip sauf que là l'idée c'est pas de dire moi je suis le meilleur et t'es mauvais, l'idée c'est de dire ah, putain t'es trop fort, je suis trop claqué.
Ok. Voilà.
C'est parti,
c'est dit pas hein.
Je crois qu'il serait temps messieurs de tenir le langage du bon sens. Il faut bien admettre en effet que quelques petits excès ont été commis.
Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Je fais trop de la boucherie chevaline. Tu déglingues, tu déchires, tu désingues, t'écorches, tu flingues, t'es morche, t'es dingue, tu roules en Porsche. Super. T'arraches, tu fracasses, tu brasses, t'es efficace, tu te places, tu froisses, t'as la classe, t'es l'as, t'es as, tu claques, t'es le mat. Super. Tu déglingues, tu déchires, tu désingues, t'écorches, tu flingues, t'es morche, t'es dingue, tu roules en Porsche. Putain, qu'est-ce que tu pèses ? Tu fracasses, tu brasses, t'es efficace, tu te places, tu froisses, t'as la classe, t'es l'as, t'es as, tu claques, t'es le mat. Tu pèses.
Ouais, t'es que de la balle, moi je suis trop mauvais. T'es peu banal, tu mets le feu à la salle, t'es trop vrai. Pendant que je cavale sur l'instrumental avec des couplets qu'aurait la balle de José Bové. J'suis qu'un chacal. T'es l'arme fatale, si je devais marquer les annales, ça se saurait. T'es un art martial, moi un connard partial avec un style glacial. T'es trop frais, total style, moi je suis qu'un goré. Je suis qu'un poil dans ta barbe et toi t'es l'arbre qui cache la forêt. Si j'étais une cassette, tu serais un coffret. T'es le carnaval de Rio et moi un bal avec Santiano du gaufret. Tu mets plus de disquettes que la totale des escrocs new-yorkais. T'es un gilet pare-balles, moi une chemisette sale à carreaux écossais. T'es un hors d'œuvre face au fleuve, moi un casse-dalle dans un troquet. T'as dit aux orphelins que tu les sauverais, aux veuves que tu les sauterais. La preuve, je suis un anonyme. Qu'on te connaît, t'as trop de rimes. J'ai pas encore mis mon bonnet, déjà ta team revient du sommet.
Vas-y, tu sais quoi? Tu truc.
À Las Vegas, entre deux pétasses, le mien un rapido dans un bar à poivras sous bière dégueulasse. Toi tu trafiques, je suis qu'un sale hispanique, t'es plus charismatique que le djihad islamique. Quand tu saisis un sax, les marsales hispaniques. Ah, le groove d'une MPC branchée sur Azov liquide. Le mien c'est dicté magique alimenté par des R6 vides. Je suis Dave, t'es les Beatles, c'est la Harley, Johnny Hallyday, moi le pain de Dick Rivers. C'est une paire de Air Jordan signé, je suis des kickers. Des punchlines, c'est ces gars les Stallone à l'affiche. Moi c'est Pedro Ricardo, Stono Hachiche qui s'affiche. Je suis le fantasme crasseux d'un poisseux dans les mines de la Moria. Toi un orgasme glacieux sur une Penthouse ou Waldorf Astoria. Ton écriture est au rap, ce que le caviar est un grec. Pour moi, c'est sans sauce blanche avec le 7, on part sans yep. T'es Monica Bellucci en robe d'été. Je suis Larousseau encore pété à chercher ses Gucci dans son Audi TT. T'as un vrai bonhomme avec une grosse paire de castagnettes. Preuve en est, quand tu clashes, tu lâches pas de blast, tu testes la planète. T'as vraiment peur de personne, pas même de mon état d'ivresse. Fais gaffe, c'est pas quand on a la bite dans le cul qu'il faut serrer les fesses. Je te l'avais dit. T'es le Mola Omar, je suis Khaled Kelkal. Toi, l'excursion en classe à faire, moi l'expulsion en charter sans escale. T'es une concession d'or noir, je suis juste un droit. Succession verbale, je vis dans un polar chaudard, je vis dans les confessions d'une pédale.
Vas-y, tu sais quoi? Tu truc. Tu manipules. Tu as les compétences. Vas-y, tu sais quoi? Tu dises. Tu défiles. Tu détruis. Tu mémorises. Tu trafiques. Tu milites.
Ouais, mec, t'es de la bombe à neutrons, de la balle à ailette. Qui vient se loger dans le cul d'une mouche verte à 400 mètres, c'est toi le meilleur. La fine fleur des poètes, le gars qui a tout compris avant tout le monde, mais que personne n'écoute, putain ça me dégoûte. Car ton écriture est phénoménale, et quand tu dis que tu tues tous les MC, t'es trop original. En plus, table à la sape, tu dois connaître du monde à New York. Et ton antivol autour des coups, je suis sûr que c'est pas du talk. T'as dû le gagner à la sueur de tes glocks, lors des drive-by enragés dans le Los Angeles de la belle époque. Emballe tes pites et tes rosses, c'est les pilotes de l'air canine. Cougar dans la cabine, les chaînes de cartes deviennent félines. Caline.
sensible à mon sexe, à pile alcaline, sans farine dans les narines, ni dévorage à 20 centimes. MC, tu te bornes à l'ego trip, va te faire enlever trois côtes, tu pourras t'auto-sucer la bite.
Vas-y, tu sais quoi, tu truc. Vas-y, tu sais quoi, tu trises, tu niques, tu défiles, tu détruis, tu mémorises, tu trafiques, tu milites. Tu mouilles la suite.
Tu tues, tu déglingues, tu déchires, tu désingues, t'écorches, tu flingues, t'es morche, t'es dingue, tu roules en Porsche.
Tu pèses,
t'arraches, tu fracasses, tu brasses, t'es efficace, tu te places, tu froisses, t'as la classe, t'es l'as des as, tu claques, t'es le match.
Tu pèses,
tu déglingues, tu déchires, tu désingues, t'écorches, tu flingues, t'es morche, t'es dingue, tu roules en Porsche.
Putain, qu'est-ce que tu pèses.
T'arraches, tu fracasses, tu brasses, t'es efficace, tu te places, tu froisses, t'as la classe, t'es l'as des as, tu claques, t'es le match.
Tu pèses.
Merci Hakim.
C'était bien, hein.
C'était bien, joli droit de réponse. Joli voilà. Code inversé, bravo.
C'est tout ce que j'avais à dire.
Bah, je pense qu'on peut rester là-dessus, hein.
Exactement.
Merci Vincent d'avoir accepté notre invitation.
De rien, c'était un grand plaisir. C'était un grand plaisir d'être là avec vous les copains.
Ça a été
et
pour
puis,
toi.
Bien sûr, ça a été. C'est participer à ce joli projet avec vous.
Je trouve
que c'est une super idée qui mérite d'être développée. On est là ensemble. J'espère que vous allez pousser le truc.
On est là.
T'inquiète, hein, monsieur, on va peser.
Je pense qu'on va rester là-dessus. Hein. C'était,
bon,
c'était
bah, gros bisous, au revoir.
Bah, nous, pour le coup, on était très contents de vous retrouver. Ouais. On était très contents de refaire ça. Et puis.
Et puis vivement la prochaine.
Vivement la prochaine.
À la prochaine,
hein,
ouais.
Forcément. Et puis avant de partir, du coup, on voudrait embrasser notre première dame qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Et puis. Voilà, lui faire un bisou et lui dire qu'on pense à
on
elle.
On pense
et,
fort à elle, très
on,
fort.
On réitère l'invitation, tu viens quand tu veux, dès qu'on enregistre, t'es la bienvenue.
Bisous.